application pour rejoindre la communauté Rhône FM. Toujours avec vous partout, Rhône FM.
Merci d'écouter Rhône FM, il est 18h pile, excellent début de soirée. Les titres du journal.
Les Sirois donnent un sérieux coup d'accélérateur au projet de Valley Arena et d'éco-quartier de la Cité du Soleil. Les autorités de la ville ravies, les opposants lâchent l'affaire. Un drame à Martigny-Croix avec la découverte d'une femme sans vie dans son appartement, son mari grièvement blessé à ses côtés. Puis dans le Jura bernois, la police sérieusement malmenée par des centaines de rêveurs installés sans autorisation dans un champ.
Côté météo, temps bien ensoleillé pour cette fin de journée. Risque de pluie à signaler en fin de soirée. Météo complète en fin de journal. Le journal de 18h en compagnie de Christian Herrmann. Bonsoir Christian.
Bonsoir Simon, bonsoir tout le monde.
Le peuple sirois dit oui au projet de l'éco-quartier Viva et de la Valley Arena.
Et à dire vrai, précisément, il dit oui aux engagements que les autorités sirois souhaitaient pouvoir prendre dans la perspective de construction pour ce projet d'urbanisation sur 9 hectares à l'ouest de la ville. Avec 63,75% des voix, le oui est d'autant plus clair que le scrutin a mobilisé 60% des électeurs. De quoi donner pleine satisfaction au président de la ville, Pierre Berthaud, également membre du comité de pilotage de ce projet.
Oui, alors le résultat fait plaisir. Le taux de participation qui s'élève à 60% aussi et qui offre légitimité finalement à cette votation. Et puis la population, vous l'avez dit, à plus de 63,5% a suivi la proposition du conseil communal et la décision du conseil général. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous, oui.
On vous a vu heureux lors de l'annonce du résultat, mais surtout soulagé, c'est exact?
Soulagé, c'est peut-être trop dire, mais tout de même c'est un soulagement d'arriver au bout d'un processus démocratique qui a pris du temps. Donc ce projet, il est maturé depuis 2018, il a fait office d'une décision législative en décembre de l'année dernière, et puis là, une votation populaire, donc ces derniers mois qui étaient assez intenses en termes de campagne, et puis on arrive ce dimanche 15 juin avec un vote franc de notre population qui nous permet d'aller de l'avant dans ce projet qui est ambitieux mais qui est aussi attractif pour notre ville, notre région et notre canton.
Et dans le camp du non, les opposants prennent acte de la décision populaire. Au-delà d'une certaine déception, c'est un autre sentiment qui prédomine chez Arnaud Suffret, président de Condé Mines Info.
Alors on est surtout soulagé que ça soit terminé parce que la campagne a été longue et rude, mais on relève quand même les aspects positifs, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un taux de participation élevé, donc ça c'était bien, notre volonté c'était vraiment que la population puisse se prononcer, elle s'est prononcée, et puis il y a un résultat clair aussi qui sort des urnes, donc ça c'est aussi une chose positive, ça va permettre à ce projet d'aller de l'avant.
Vous dites quand même content que cette campagne soit finie, franchement ça n'a pas été du pain béni.
Non, c'est vrai que c'est une minorité qui nous a causé quelques soucis, mais c'est vrai que ça pèse sur le moral et sur le quotidien, donc on est content que ça soit terminé.
Après coup, si c'était à refaire, vous le referiez?
Alors, comme ça, après 6 mois d'harcèlement, je dirais non. Mais en même temps, je suis content qu'il y ait eu la possibilité que la population se prononce sur le projet centenal, c'est le projet du siècle. Donc, c'était vraiment une anomalie que la population n'ait pas la possibilité de se prononcer sur ce projet. Donc, de ce côté-là, je suis quand même satisfait.
Et la population a donc choisi à 2-1 pour avancer dans ce projet. Et dans leur camp, c'est aussi un collectif citoyen qui s'est créé un peu par nécessité, souligne sa coprésidente ravie, Carole Mélie-Bazy.
Oui, parce que c'est vrai que la campagne, elle a débuté avec un référendum. Donc, pour la petite histoire, décembre 2024, vous avez le oui du Conseil général à 85%, magnifique. Puis ensuite, une campagne sur le référendum débute avec des recours sur les 72 points qu'on reproche visiblement au Conseil général et à sa votation. Et donc, là-dessus, il y a vraiment un espace qui a été occupé par les opposants qui devait être contrebalancé en disant, ben voilà, il y a aussi des citoyens qui sont pas tous des fans absolus du hockey, mais qui ont aussi cru en ce projet pour plein d'autres raisons. Autant on peut être contre pour plein de raisons, mais aussi on peut être pour d'autres raisons, et c'est pour ça que notre mouvement citoyen s'est mis en route. L'objectif, c'était de montrer que oui, il y a la commune qui fait son rôle d'institution, mais vous avez des citoyens du non, mais vous avez aussi des citoyens du oui qui ne doivent pas être oubliés dans la campagne. Et c'est comme ça que ça a avancé.
Et c'est aussi comme ça que le HCCR décroche, lui, le droit d'espérer une nouvelle enceinte d'ici quelques années, car l'issue de ce scrutin est vécue comme un immense soulagement chez les dirigeants du Club Rouge et Jaune, le président du HCCR, Alain Bonnet.
Ouais, déjà, merci à toute la population sirloise. Je pense que un oui à près de 64%, c'est vraiment une très bonne chose pour le projet. Ça nous réconforte aussi dans tout le travail qui a été fait durant tous ces derniers mois. Et puis, ça nous donne surtout une légitimité pour poursuivre cette aventure et puis d'avoir rapidement cette Valley Arena.
Quels sont justement les prochains objectifs pour le HCCR après ce oui aujourd'hui?
Bon, là, il y a l'objectif sportif, c'est comme les autres années, c'est d'essayer de performer. On a quand même une ambition de National League avec cette nouvelle patinoire. Donc, on doit se préparer les prochaines années à avoir toujours une équipe plus compétitive pour pouvoir espérer un jour aussi monter en National League. On sait que c'est très difficile et on va mettre tous les atouts de notre côté pour pouvoir progresser à Graben. On sait que pertinemment que la patinoire est vétuste et que ce sera très difficile. On a fait quelques améliorations. Et puis on va préparer cette arrivée de la nouvelle patinoire.
Les dirigeants du club ne seront d'ailleurs pas seuls pour la préparer, cette arrivée. La prise de température de Valentin Marclay au Camp des Mines après l'annonce du résultat semble prouvée.
On attendait ça avec impatience. C'est clair que le résultat a conforté tout ce qu'on pouvait attendre de bien pour les Mines de Sierre, encore une fois.
Je suis supportrice du HCR depuis 1982 et que... J'ai pas de mots, j'ai juste les larmes.
On a eu la chance d'avoir des gars comme Chris Maxorley qui est vachement connu en Suisse, qui s'est intéressé à Sierre. Et puis ouais, maintenant c'est que du plaisir.
On est vraiment satisfait, on voit maintenant que ça ouvre pour la suite du projet. C'est ce qui est le plus important, c'est qu'on puisse poursuivre avec un projet qui est vraiment légitimé par la population serroise. Et donc grande satisfaction.
Une femme a été retrouvée sans vie dans la nuit de vendredi à samedi dans son domicile de Martigny-Croix.
Et peu après minuit, la police cantonale avait été alertée par une tierce personne redoutant qu'un proche soit en danger. Plusieurs patrouilles de la cantonale et de la municipale de Martigny se sont immédiatement rendues sur place. Une femme inanimée ainsi que son mari grièvement blessé ont été découverts dans le logement. Dépêché sur les lieux, le médecin du SMUR n'a pu que constater le décès de la femme. Son époux a été pris en charge et acheminé à l'hôpital. Aux côtés de la police cantonale, la police municipale de Martigny, deux ambulances de l'OCVS ainsi qu'un hélicoptère d'air glacier ont été engagés. Le ministère public a évidemment ouvert une instruction afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame. La présomption d'innocence est rappelée jusqu'à ce qu'une condamnation définitive soit prononcée. Aucun autre renseignement ne sera communiqué tant que l'enquête n'aura pas permis d'établir précisément le déroulement des faits.
Les mouvements de solidarité avec les habitants du village de Blaten ne cessent de se manifester.
À l'aube du week-end, la chaîne du Bonheur avait déjà reçu pour plus de 17 millions de francs de promesses de dons. Et ces derniers jours, la Confédération, plusieurs cantons, communes et particuliers ont eux aussi déjà versé des fonds en faveur de la population de Blaten. Berne, par exemple, a débloqué 5 millions, le canton du Valais 10 millions. D'autres organisations collectent également des soutiens. Le village reçoit aussi de nombreuses offres de dons en nature. C'est ce qu'indique la commune de Blaten sur son site internet. Mais cette dernière n'est actuellement pas en mesure de les gérer sur le plan organisationnel ou administratif. Elle demande donc de renoncer pour l'instant à des actions privées et dons en nature. Selon les dernières estimations des experts, 1 million de mètres cubes de roches sont encore en mouvement. Un éboulement a détruit en grande partie, on le rappelle, le village du Lechental le 28 mai. Le montant actuel des dégâts est estimé entre 1,5 milliard et 1 milliard de francs.
Le site, petit problème technique, le site de Festinoche qui a dû être évacué cet après-midi en raison d'un violent orage ne va pas rouvrir ses portes.
Oui, de nombreuses barrières et tentes ont été balayées par le vent qui a soufflé à 140 km/h. Les organisateurs ont informé sur Facebook que le public était invité à rentrer à la maison. C'est la première fois en 24 éditions de Festinoche que le site a dû être évacué. La majorité des festivaliers se sont réfugiés dans les parkings, dans les locaux scolaires. Jusqu'à l'orage de 14h50, l'édition du festival s'était déroulé sans incident sécuritaire et sanitaire majeur. Malgré la canicule, la manifestation à guichet fermé devait connaître une affluence de près de 60 000 personnes. Aujourd'hui, 14 500 personnes devaient fouler les Jeunes Rives. La plupart des festivaliers n'étaient pas encore arrivés au moment de l'évacuation.
Les forces d'intervention de la police cantonale bernoise ont été attaquées hier soir à Maléré dans le Jura bernois.
L'assaut est survenu au moment où elle tentait de mettre fin à une rave party illégale avec plusieurs centaines de personnes. Lors de la tentative de saisie de l'installation musicale, les forces d'intervention ont été encerclées par les personnes présentes. C'est ce qu'indique la police cet après-midi. Elles ont été attaquées à l'aide de barres de fer, de jets de bouteilles, de bois, de gaz irritant, précise le communiqué. Deux policiers ont été blessés. Les pneus de deux véhicules de patrouille ont été lacérés. Un véhicule en corps était barbouillé et des fenêtres brisées. Des moyens de contrainte ont été engagés à des fins de protection, entre autres des balles en caoutchouc et du gaz irritant. En raison de plusieurs plaintes pour bruit et d'avis de troubles à l'ordre public et sur mandat écrit de la préfecture, la police cantonale avait notifié hier soir vers 20h à l'organisateur l'ordre de faire cesser la musique, une mission appuyée justement par un mandat du ministère public du Jura Bernois-Zélande, autorisant les forces de l'ordre à mettre en sûreté des moyens de preuve en lien avec d'autres infractions constatées.
L'ancien international italien Gennaro Gattuso, 47 ans, est le nouveau sélectionneur de la Squadra Azzurra.
Mais l'homme est réputé pour sa rage de vaincre et son tempérament volcanique. Il doit remettre les Italiens sur la bonne voie dans la course à la qualification pour le Mondial 2026. Gattuso, passé par le FC Sion, il avait débuté sa carrière d'entraîneur en 2013, ensuite entraîné notamment Palerme, l'AC Milan, Naples, Valence et Marseille.
Merci beaucoup Christian, les nouvelles reviennent demain à 6h. Ce soir, temps, nuages jaunes, nébulosité, plus importante en fin de journée jusqu'en soirée avec un risque d'averse à la hausse. Averses pourront prendre un caractère orageux et être localement intense avec des rafales de vent et de bonnes douches, notamment dans le Chablais. Température maximale cet après-midi en pleine du Rhône, 27 à 30 degrés dans les stations, vers 1500 mètres, 21 à 22 degrés. Demain, banc de nuages résiduels, plus ou moins étendus au lever du jour et se muant en cumulus à proximité des reliefs au fil de la journée. Sinon, retour à des conditions généralement bien ensoleillées sur les régions de plaine d'ici l'après-midi. Température maximale de 24 à 26 degrés, 18 degrés à 1500 mètres. Et enfin, mardi, temps ensoleillé avec le développement de cumulus au-dessus des reliefs au fil de la journée. Température maximale seront de 26 à 28 degrés et 21 degrés à 1500 mètres. On va rentrer dans la dernière heure et restez avec nous car dans quelques minutes, on va accueillir le journaliste Hugo da Custodia qui va nous parler de toute l'actualité sportive. Ce sera dans l'émission Zone Mixte.
Slipping by, oh, away from me. And oh, she caught my eye through the light. And she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We can dance all night. We can dance in the morning light. Let's forget about our worries in the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We can dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat for. Slipping by, oh, away from me. And oh, I saw the light in her eyes as she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We can dance in the morning light. Let's forget about our worries in the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We can dance all night. Nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night.
Ladies and gentlemen, this 8h15, 19h, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM.
L'été pointe le bout de son nez, la neige fond par chez nous et les skieurs profitent des beaux jours pour peaufiner leurs conditions physiques, parfois dehors, souvent en salle. On évoquera la rigoureuse préparation des athlètes avec l'ancien footballeur Stéphane Grechting, coach chez Elitement. En deuxième partie d'émission, on ouvrira une page consacrée au VTT en ce jour de Raid et Volénard avec l'ancien coureur valaisan Alex Mauss. On parlera enfin de basket avec Romain Gaspeau, entraîneur d'Elphick, assistant de l'équipe de Suisse féminine qui participe à l'Euro dès mercredi. Eric Lehmann, secrétaire général de Suisse Basket et ancien coach d'Elios, sera aussi avec nous en direct. Vous connaissez le menu, c'est Zone Mixte jusqu'à 19h.
Rhône FM, Zone Mixte avec Hugo da Custodia.
Et vous le savez, vous pouvez interagir avec nous durant cette émission. Vos questions, vos remarques sont les bienvenues au 079 327 10 10, 079 327 10 10. On aurait pu parler de foot dans le premier entretien de cette émission, mais notre interlocuteur a tourné la page depuis longtemps, même s'il reste un observateur attentif du FC Sion, du ballon rond en général. Stéphane Grechting s'est reconverti avec succès dans le coaching et la préparation physique. Employé de la société Elitement, l'ancien international helvétique accompagne notamment des skieurs de très haut niveau. Valentin Marclay a rencontré Stéphane Grechting il y a quelques jours en marge du Sport Talent Charity Day, un événement dédié à la relève, et il a ramené cette interview.
Moi, c'est la 8e saison que je fais ce travail de préparateur physique et je suis vraiment extrêmement satisfait d'avoir réussi ma reconversion. C'est toujours intéressant de faire une belle carrière, mais après, la reconversion est souvent assez difficile, surtout après 19 ans où on est déconnecté un petit peu du monde du travail. Et là, c'est sûr que je suis vraiment satisfait et très fier de pouvoir grandir dans cette société d'Elitement.
Qu'est-ce qui vous plaît tant dans ce métier de préparateur physique? Parce que vous avez quand même, les préparateurs physiques, cette casquette un peu de grand méchant loup avant les saisons.
Oui, je pense qu'il est important maintenant, on n'est plus forcément les préparateurs physiques d'antan que j'ai connus aussi. On est beaucoup dans l'explication, dans la construction de la performance. Et ça, je crois que c'est les athlètes qui aiment bien ça. Nous, la grande différence, c'est vrai qu'on voit on voit l'humain. Ça veut dire qu'on est toujours en coaching un avec un athlète, donc on n'est pas dans du global et dans des groupes, donc ça fait vraiment une différence. On est vraiment beaucoup dans l'évaluation, on essaie d'aller chercher les petits degrés, les 10%, les petits centièmes qui font que au lieu d'être un joueur ou un athlète bon, qu'on devient excellent. Et puis ça, c'est aussi un peu notre marque de fabrique, de pouvoir travailler dans la durée et d'avoir du temps pour travailler.
Souvent quand on est jeune sportif, on n'apprécie pas forcément la préparation physique. Ça a été votre cas aussi en début de carrière?
En début de carrière, oui, totalement. Oui, j'ai commencé à 17 ans à Sion. On avait Alberto Bigone avec ses deux assistants. C'était des préparateurs physiques vraiment à l'ancienne, très très durs, à l'italienne. Donc c'est sûr que c'était pas ma tasse de thé. Quand on arrivait le soir à la maison, on mangeait une soupe et on allait au lit direct se coucher parce qu'on était tellement cramés, comme on pourrait dire. Donc la préparation physique a quand même beaucoup évolué. Et puis tout au long de ma carrière aussi, j'ai vécu 10 ans en France avec le même préparateur physique, donc pour moi c'était vraiment quelque chose où là j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça, à comment le corps répond à une préparation. Et c'est vrai qu'après, à Grasshopper, j'ai aussi deux préparateurs physiques qui étaient extrêmement intéressants dans leur approche, et je me suis aussi un peu inspiré de ça. Et c'est vrai que tout au long de mes années, j'ai de plus en plus aimé la préparation physique parce que je savais les bienfaits que ça pouvait m'apporter.
Pourtant, la préparation physique, c'est vraiment la clé de la réussite, c'est indissociable.
C'est l'une des clés, oui, bien évidemment. Il y a le répertoire technique, il y a bien évidemment la préparation physique, il y a le mental, il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent pour que la performance se construise. Ça, c'est bien évident que s'il manque des choses, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Donc on essaie vraiment de pouvoir mettre ça, les pièces du puzzle, ensemble pour que la préparation physique, à la fin, permettent à l'athlète de pouvoir avoir son meilleur répertoire technique dans son sport et de pouvoir bénéficier de tous ses acquis.
Vous suivez beaucoup d'athlètes de différents sports. Est-ce que ça change entre disciplines, les techniques d'entraînement, les techniques de préparation?
Oui, alors j'ai envie de dire, il y a un tronc commun où dans le sensorimoteur, dans la stabilisation, dans cette coordination, ce gainage, ainsi de suite, c'est sûr qu'on pourrait l'impliquer à beaucoup de sports. Après, le calcul de la charge, bien évidemment, que si on a un golfeur ou si on a un skieur ou si on a quelqu'un qui fait du badminton, bien évidemment que les charges et les intensités sont différentes, le travail est différent, mais ça donne aussi des perspectives et puis de pouvoir progresser dans chaque sport et essayer d'apporter et tirer aussi des parallèles entre chaque sport pour pouvoir que l'athlète puisse être performant à la fin.
Vous suivez beaucoup de skieurs. Même entre les skieurs, ça change aussi, j'imagine, la préparation, la technique et puis la vitesse.
Totalement, exactement. Les angles ne sont pas les mêmes, les charges ne sont pas les mêmes. Si on a un slalomeur qui est très aérien et un descendeur qui est un petit peu plus profond, c'est sûr qu'on ne travaille pas forcément la même chose. Alors, il y a une partie de l'année où la prévention, c'est un petit peu la même, mais sinon, après, on est vraiment dans le transfert du ski et de la catégorie auquel il travaille. Et puis surtout, si on a un descendeur qui a 25 ans ou un descendeur qui a 17 ans, bien évidemment que la construction du plan n'est pas forcément aussi la même. Donc on doit vraiment s'adapter à l'âge physiologique aussi et puis aux spécificités de chaque athlète.
Au football, il y a un préparateur physique qui vous suit pratiquement tous les jours. Au ski, c'est un tout petit peu différent à travers le monde. Il y a beaucoup de voyages. Est-ce que vous les suivez toujours pendant la saison ou vous avez vraiment ce rôle d'accompagnateur avant la saison ?
Alors on a trois gros mois où les athlètes sont quasiment tous toujours en salle. Après, il y a l'arrivée des glaciers où l'Amérique du Sud l'hémisphère Sud, pardon, où ils vont certaines fois aller. Nous, on a la chance d'avoir une application, donc on les suit au quotidien, jour après jour. On a toujours cette qualité de suivi. Je pense que c'est très important. Donc après les trois mois, on peut pas s'arrêter là et dire bon bah voilà, tu es prêt pour en mois de septembre pour aller faire Kitzbühel au mois de décembre ou janvier. C'est pas du tout le cas. On fonctionne aussi par cycle. Après, quand il y a beaucoup de ski, bien évidemment que c'est plus la récupération, la prévention. Et puis on refait des blocs de maintien, comme on peut dire, quand le programme le permet. Pour maintenir l'athlète à flot et puis pour faire des blocs et de revenir dans un bloc de condi pour pouvoir continuer à performer tout au long de la saison. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'athlètes qui performent jusqu'au mois de février et après février, mars, avril, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est ce qu'on veut pas. Et nous, on veut vraiment des athlètes qui puissent performer du premier jour sur la neige ou sur son sport jusqu'au dernier jour. Et c'est pour ça qu'on suit vraiment les athlètes 365 jours par année.
On parle de semaines, de mois de préparation. Comment vous faites pour ne pas les dégoûter, les sportifs, après quelques jours seulement ?
Alors, je pense que déjà au niveau de l'explication, quand on fait les bilans à la fin de saison et quand on fait la projection de l'année suivante, on explique beaucoup ce qu'on va faire. Souvent en collaboration, quand on a des athlètes qui sont un peu plus mûrs, on partage nos idées, on trouve les meilleures solutions. On n'est pas des dictateurs, on est vraiment des gens qui accompagnent les athlètes. Donc on est toujours dans la discussion. Quand on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on va faire, c'est aussi beaucoup plus facile de toujours être conscient de ça. Et puis surtout, trouver des choses ludiques. On n'est pas forcément obligé de soulever tous les jours 250 kilos. Il y a des parallèles qu'on peut trouver. Il y a beaucoup de multisports aussi. On essaie vraiment, que ce soit pour plein de sports, de trouver des parallèles pour faire de la condition physique sous d'autres formes aussi. Et ça, c'est vrai qu'on se démarque par rapport à ça. Et je pense que les athlètes, ils adorent quand on vraiment qu'ils sont au centre du projet et pas qu'on soit vraiment, qu'on dicte tout ce qu'on fait sans leur donner la parole. Voilà.
Aujourd'hui, les athlètes sont de plus en plus précoces. Pour certains, ils émergent beaucoup plus rapidement qu'à l'époque. C'est aussi ça une difficulté de s'occuper de ces jeunes athlètes. C'est quand même différent qu'un athlète confirmé.
Complètement. C'est un autre travail, mais on sait le faire maintenant. On a beaucoup de recul aussi par rapport à ça. Le post-puberté, pré-puberté, puberté, qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est vraiment un travail très fin et on arrive très, très facilement à le faire quand on est avec un seul athlète. C'est sûr que quand on a un groupe de 20 personnes, de 20 jeunes qui ont déjà commencé à grandir, il y a des filles, des garçons, ainsi de suite, c'est plus compliqué. Là, quand on est vraiment avec un athlète, c'est aussi beaucoup plus facile de pouvoir les accompagner dans ce long chemin de l'adolescence, préadolescence, adolescence, et puis jeune homme et homme. Et ça, c'est vrai que maintenant, on a beaucoup d'expérience par rapport à ça. Et moi, j'ai très souvent, je suis encore des jeunes athlètes qui ont 12, 13 ans. Donc pour moi, ça ne me pose pas de problème. Et on essaie vraiment de calculer tout ça pour que ça soit le plus adéquat possible.
Dernière question, Stéphane Grichting. Elite Ment a aujourd'hui une réputation, une légitimité sur la scène internationale. Qu'est-ce qui est si différent chez vous ?
Je crois qu'on est très, très à l'écoute. On rentre dans des structures où, nous, comme j'ai dit avant, on est dans l'individualisation. Vraiment très précise, donc c'est vrai que ça fait aussi une différence. Et puis aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que nous on collabore beaucoup, On collabore beaucoup avec les entraîneurs techniques, avec les préparateurs physiques des sélections ou des groupes. Donc ça fait aussi notre force, parce qu'on ne fait pas quelque chose caché dans notre coin. On partage, on essaie d'être à l'écoute et on essaie toujours de trouver le meilleur chemin pour l'athlète. Et ça fait quand même aussi une différence de pouvoir partager ces données et puis ces évaluations. Et avec l'expérience, bien évidemment, dans tous les sports qu'on a la chance de faire, ça apporte vraiment les derniers petits degrés qui permettent de construire au mieux une performance.
Stéphane Grichting avec Valentin Marclet. Sachez que le calendrier de la saison de ski alpin a été validé cette semaine. La reprise est fixée au dernier week-end d'octobre avec les traditionnels géants d'ouverture à Sölden. L'élite mondiale et plusieurs protégés de Stéphane Grichting et de la société Elitement seront en Valais du 30 janvier au 1er février 2026 à l'occasion des épreuves de Crans-Montana, descente et super G dames, et puis une descente masculine juste avant les JO. On en salive déjà. Musique sur Rhône FM. On revient juste après pour parler de VTT avec notre prochain invité, Alex Mousse.
Zone Mix sur Rhône FM.
Zone Mix à
avec Hugo da Custodia.
Andreas Zewald a fait honneur à son statut aujourd'hui. Multiple vainqueur du Grand Raid, l'Allemand s'est imposé sur le Raid Evo Lennart devant le Belge Franz Kless et le Suisse Hans-Wely Stauffer. Chez les dames, la Suissesse Irina Lützel-Schwab a remporté le grand parcours. Podium 100% helvétique complété par Mallory Barth et Stéphanie Zano. Et pour parler de VTT, puisque c'est de VTT qu'on va parler, vous l'aurez peut-être compris, ce dimanche on accueille un spécialiste, Alex Mauss. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, Alex Mauss, ancien cycliste professionnel, ancien VTTiste, dernier vainqueur valaisan du Grand Raid, c'était en 2012. Un mot sur ce Raid Evo Lennart, puisque vous descendez juste des Volaines à l'instant avec un plateau aux allures de championnat du monde.
Non, c'était vraiment cool. Je pense un grand bravo aux organisateurs. Ils ont fait un grand boulot pour mettre en ordre ce parcours après ces chutes d'arbres hein, qui obstruaient le parcours. Et puis question pour la jeunesse, là, c'était le top. Beaucoup de jeunes enthousiastes. Non, c'était vraiment une journée réussie.
C'est une belle vitrine pour le Valais avec cette participation internationale. On sait que ces grands noms du VTT Marathon sont aussi là avec une idée bien précise, préparer les championnats du monde qui auront lieu pendant le Grand Raid.
C'est clair, le Raid Evo Lennart, c'est la course de préparation. Enfin, pour moi, ça a toujours été une des courses importantes de préparation. Ça monte haut. C'est un circuit qui est plaisant, qui est très physique. Et voilà, c'est en Valais. Il y a l'air du Valais pour les championnats du monde. C'est une bonne approche.
Alain Glacé nous avait glissé qu'Andreas Zewald et Urs Hubert, qui a terminé dans le top 10 aujourd'hui, que les deux allaient passer quelques semaines en Valais justement pour s'entraîner en vue du Grand Raid. C'est aussi une belle carte de visite. Ces gens se plaisent en Valais, les stars du marathon.
Oui, mais bien avant, on a eu encore d'autres athlètes, des routiers qui sont venus aussi s'entraîner en Valais. L'année passée, des bikers aussi. Du côté de Chondolin, voilà, c'est aussi un endroit qui est top, soit pour le bike, soit pour la route, le Valais, pour s'entraîner, se préparer.
Quand vous voyez des belles épreuves comme le Grand Raid, comme le Raid Evo Lennart dont vous avez fait la description tout à l'heure, ça vous manque pas un petit peu?
Non, pas du tout, parce que je suis toujours là un petit peu à suivre les athlètes ou voilà, à suivre la scène. Je pense que j'ai gagné mon dernier Raid à 40 ans, j'avais assez donné pour les courses.
Vous qui avez un magasin de vélos, Alex, vous avez combien de vélos? Combien de vélos vous enfourchez? Route, VTT, d'autres?
Oui, cyclocross l'hiver, route, VTT, e-bike, sportif, un petit peu de tout. Non, il faut être multi. J'ai toujours été multidiscipline et on y reste.
Alors un petit mot sur vous quand même, votre actualité. En avril dernier, vous étiez au Brésil avec le Team BMC en tant que directeur sportif. On a cru comprendre que la firme faisait face à des difficultés financières, que ça touchait tout le groupe, tant la production de vélos que les autres activités. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec BMC, Alex Mauss?
Malheureusement, j'ai dû mettre un peu en stand-by l'histoire, comme vous avez bien dit, un petit peu difficultés financières. Et voilà, alors pour l'instant, je vais me consacrer un petit peu à d'autres athlètes. Et puis, on verra pour l'avenir si je vais rester que protégé d'athlètes personnels ou on va réintégrer un autre team. On verra, toutes les portes sont ouvertes et une grande discussion pour l'instant.
Vous aviez été nommé en 2022, deux saisons pleines, 2023-2024. Dernière expérience en avril au Brésil, je l'ai dit, avec BMC. Qu'est-ce qui reste de ce retour en tant que directeur sportif de cette expérience?
Oui, alors je suis revenu en 2021, au mois d'août, pour relancer un petit peu le creux de la vague là que c'était. On a bien relancé parce que l'année suivante on gagne deux coupes du monde. Voilà, après on a mis en place et maintenant voilà, des fois il y a un petit peu du changement et puis des aléas de la vie comme on dit, mais il y a toujours du bien avec un petit peu de changement, soit d'un côté soit de l'autre. Alors un petit peu plus avec la famille là tout d'un coup, avec les enfants qui font à bloc le sport aussi, alors on est content. Et puis j'ai mes athlètes à moi aussi que je suis, on pourrait être un peu plus présent.
Lesquels, on peut préciser? Qui est-ce que vous accompagnez, Alex Mauss?
Ouais, j'ai surtout Evan Deli de Martini, qui a fait une super performance hier, parce qu'il y avait aussi une EKK Bike Series en Gruyère. C'était super, il a fait une magnifique 9e place. Et peut-être le scoop, aujourd'hui, on a une championne d'Europe, Anne-Valérie Thalmann, qui est une championne d'Europe de grand fondo dans sa catégorie. Voilà, peut-être vous ne la savez pas, celle-là.
Ah non, je ne savais pas celle-là.
Eh bien, voilà.
Vous étiez aussi surtout impliqué avec BMC dans le cross-country. Vous touchez à d'autres disciplines du VTT, puisque toutes seront représentées en Valais.
Oui, c'est une grande palette maintenant avec le cross-country, la short race, c'est quand même les disciplines un peu plus olympiques, le marathon que je connais bien. Et après, c'est clair, souvent sur les manches de cross-country, il y a aussi la descente. Alors, on a un petit œil sur la descente, mais qui sont complètement des athlètes différents et une façon d'approche qui est complètement différente. Mais les marques sont souvent en synergie, les composants et tout ça. Et puis voilà, après, tu en as d'autres épreuves où on a moins. On a un petit peu moins l'œil, mais ouais, le BMX, je crois qu'il n'y aura pas, mais je veux dire, le pump track, tout ça, c'est aussi des sports fun que voilà, les jeunes pratiquent aussi, alors on connaît aussi.
Le pump track qui peut se faire avec un vélo de type BMX ou un vélo de type qui se rapproche plus du VTT par ailleurs. L'évolution du VTT, tel que vous l'avez pratiqué, Alex Moss, tel que vous l'avez aussi accompagné de l'extérieur.
Bon, moi, j'avais fait ma carrière, elle a été faite sur la route. Après, j'ai fait plus ou moins du marathon. Après, le cross-country, voilà, ce qui a changé dans le cross-country, c'est venu un peu plus court. Le temps de l'épreuve, elle est passée autour de 1h20 maintenant. Ce qui change ces dernières années, ou l'année passée, ou ces dernières années, on vient sur des parcours qui sont plus roulants. À l'œil du téléspectateur un peu plus ça touche plus, ça impressionne plus avec des grands sauts, mais c'est des pistes qui sont un peu plus lisses, que ça roule plus vite et souvent plus groupées avec plus de suspense. Avant on avait vraiment plus des courses avec beaucoup plus de racines, du naturel et tout ça. Maintenant ça passe un peu sur l'artificiel où on veut justement que ça il y a du suspense jusqu'à la fin.
Il y a encore une complémentarité entre les circuits cross-country et les circuits marathon, puisqu'on sait que pendant de très nombreuses années, certains faisaient les deux. Là, vous le dites, cross-country, des épreuves plus courtes, plus ramassées, du coup, c'est moins évident de se lancer en marathon.
Non, ça n'a rien à voir. Je suis juste un petit peu déçu que le marathon, justement, et avant le cross-country, sur les championnats du monde, parce que ça aurait permis aux coureurs du cross-country d'aller faire le marathon. Ils seraient venus ici, ils auraient fait le cross-country, plus peut-être une semaine après le marathon. On a vu l'année passée, c'est quand même les coureurs du cross-country qui sont venus champions du monde. Et voilà, même s'il y a 3-4 heures de plus, ils sont aussi préparés. C'est clair que le grand rêve, c'est encore autre chose. Entre 4 heures d'un marathon ou 6 heures, ça change énormément. Et là, c'est clair qu'ils auraient eu vraiment de la peine, les gars du cross-country.
Comme quoi, cette complémentarité existe encore. Si on reste sur cette planète VTT, avec vos diverses casquettes, votre connaissance, si on parle des championnats du monde Valais 2025, ça se présente bien de Champéry à Crans-Montana, en passant par Monté, Belval, Zermatt, Verbier et Grimens. Voilà, qu'est-ce que vous sentez là, à moins de 100 jours de l'événement, comme énergie et qu'est-ce qui s'en dégage?
Ah, je ressens beaucoup d'enthousiasme quand même. Hein. C'est un long moment que ça en parle. Hein. Maintenant, on arrive gentiment au bout. Je pense qu'il y a tout le monde qui est impatient d'y arriver. Et voilà, comme dans le sport, il faudra mettre les gaz au bon moment et les mettre à fond les jours J. Mais je pense que ça va être vraiment le top et on se réjouit.
Il y a deux symboles, j'ai envie de dire. Laurent Dufaux, dernier Suisse à avoir remporté le Tour de Romandie. Vous êtes le dernier Valaisan à avoir remporté le Grand Raid. Ça vous ennuie un petit peu ou vous accrochez un peu à ce statut? Vous aimeriez bien qu'un Valaisan soit votre successeur un jour?
Ah c'est clair que oui. Hein. J'ai pas trop pensé à ça. Hein. C'est clair que ça passe, les années passent. Maintenant, on regarde ça d'un œil différent. Mais je pense aussi, pour le public et tout ça, c'est clair que ça va vite, l'enthousiasme. Moi, quand je marchais sur la route, où j'ai pu gagner justement des étapes au Romandie autour de Suisse, tu sentais que les spectateurs, ils étaient là, ils venaient. Les Valaisans restent quand même chauvins avec leur Valaisans. Et j'étais vraiment énormément encouragé. Maintenant, sur le Grand Raid, c'était la même chose aussi. J'ai beaucoup de spectateurs, beaucoup de gens qui venaient. C'est clair que quand il manque quelques coureurs du cru, il y a un petit peu moins d'enthousiasme. Ça, c'est clair. Alors, on espère que rapidement, on va retrouver quelqu'un au sommet de la pyramide.
On sait qu'il y a un immense boulot qui est fait par les clubs dans chaque région, qui est fait aussi par la Fédération Valaisanne de cyclisme, avec la mise en place d'une académie, le suivi. Malgré tout, ça va dans le bon sens, selon vous, pour l'évolution, pour peut-être le retour aussi au premier plan du VTT en Valais.
Oui, tout à fait. Je pense que avant il y avait pas grand chose. Maintenant, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Ça prend un peu du temps et il faut laisser un petit peu du temps. Mais la route tourne du bon côté ça va venir. Il faut voilà sur cette lancée faire des courses de cross-country aussi. Et continuer sur cette bonne lancée des championnats du monde. Et moi, je suis sûr avec le job qu'il est en train de faire, et ben ça va arriver des top pilotes qui vont prôner les belles places tout bientôt.
Un dernier mot sur le vélo avant de basculer sur d'autres thématiques que j'aimerais aborder avec vous, Alex Mauss. Le e-bike en compétition, vous avez un avis sur cette question, parce que on a l'impression qu'il y a beaucoup de pratiquants de vélo avec un moteur, comme on dit, de vélo à assistance électrique, mais que la transformation de l'essai en mode compétition, ça prend pas encore tout à fait.
En tout cas, par l'épreuve, on dirait, de où tu deviens champion du monde, qui est un peu typé cross-country, franchement, c'est nul, quoi. Il y a dix pilotes au départ, voire 12. C'est vraiment pas terrible. Non, ça prend pas du tout. Par contre, comme il y avait avant l'e-bike de Verbier, où on était à deux, et on faisait le tour du Mont Blanc, en sorte à étapes et tout ça, avec la batterie, avec la gestion de coureurs et tout ça, une aventure. Ouais, ça, c'était chouette. J'ai participé à trois éditions. C'était un grand moment de partage et c'était chouette. Mais le type olympique, non, c'est pas ça.
Bon, bah, peut-être qu'il y aura un créneau pour le VTT électrique en compétition malgré tout. Encore quelques mots sur vos autres passions, Alex Mauss l'a dit, notamment le hockey sur glace. Journée très spéciale pour le supporter du HC Sierre que vous êtes, avec l'approbation par les citoyens sierrois du projet de nouvelle patinoire.
Oui, tout à fait. On en a transpiré ces derniers jours. On a transpiré. On en a beaucoup parlé. Et finalement, on est hyper content de ce résultat de 63, quasiment 64% de oui. Et je pense que mes enfants font aussi du hockey. Plein de jeunes font du hockey. Et il y a pas que le hockey, parce qu'il y a plein d'autres sports qui rentrent en ligne de compte. Mais on est tous heureux et soulagés. Et je pense que ça va dynamiser tout le HCCR et l'entourage avec ça.
Vous venez de le dire, ça va au-delà du HCCR.
C'est clair, ça va au-delà du HCCR, ça va au-delà de Sierre. C'est la jeunesse, là, quand je vois. Moi, j'ai pratiqué pendant longtemps la course à pied et on n'avait pas de stade à Sierre. Je me rends souvent à Ecosia aussi pour le street hockey. Quand je vois le nombre de jeunes qui pratiquent la course à pied maintenant qu'il y a ce stade, c'est super chouette. Et puis pour le hockey, c'est la même chose, là. Quand on aura une nouvelle structure et tout ça, ça va redonner, ça va rebooster. Et puis, franchement, ça fait vraiment plaisir pour la jeunesse.
Le sport générateur d'émotions. Les Sierre Lions, vous venez d'en parler, ça c'est l'autre passion, oui, qu'on voulait encore aborder, avec un titre de champion suisse. Je crois que vous étiez aux premières loges.
Oui, on a fait très fort. Eh ben justement, j'ai pu être là sur les deux derniers matchs. On perdait 2-0, on a régalisé 2-2, puis on a été battre Aubervilles là-bas sur place. C'était assez fou. Voilà, j'ai pu être dans cette équipe quand on a perdu la première finale. Après, on a gagné la finale, on a gagné la coupe. J'étais aussi présent, et maintenant on regagne deuxième fois comme ça dans une situation de renversement. Non, c'était top, là.
Bon, vraiment. Vous avez vécu de sacrés moments, ouais, avec juste ces casquettes. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Alex, d'avoir trouvé le temps de venir nous trouver à Rhône FM. Bonne suite à vous et à bientôt.
Merci, c'était trop sympa. Merci, à bientôt.
Et nous, on se retrouve juste après la musique pour parler de basket avec le secrétaire général de la Fédération Suisse et ancien entraîneur d'Elios, Eric Lehmann.
Zone Mix sur Rhône FM.
Oh, joli, t'as pu aller en placer pas mal, hein.
Tell me, would you wait for me? Baby, I'm a rolling stone. I got a lot of right in me, but I don't wanna say this wrong. Tell me, would you stay with me? Maybe we could make this home. You should run away with me, even if you're better off alone. I like that you like me. I kissed your lips, you got good taste. I like that you like me. I could close my eyes and draw your face. If you take this chance, I'll give you oxygen to breathe me in, but I'll say sorry in advance.
My head's a mess. It's like that every day, and I'll try my best. It sounds cliche, but tell me, would you wait for me? Baby, I'm a rolling stone. I got a lot of right in me, but I don't wanna say this wrong. Tell me, would you stay with me? Maybe we can make this home. You should run away with me, even if you're better off alone. Your name is a neon light in the sky where darkness surrounds us. Let's leave this town, get married, go to Vegas and create nostalgia. Tell me, will you save this dance? I feel my knees get weak beneath me. I know this night might be our last. My head's a mess. It's like that every day, and I'll try my best. It sounds cliche, but tell me, would you wait for me? Baby, I'm a rolling stone. I got a lot of right in me, but I don't wanna say this wrong. Tell me, would you stay with me? Maybe we can make this home. You should run away with me, even if you're better off alone. Tell me, would you wait? For me, baby, I'm a rolling stone. I got a lot of right in me, but I don't wanna say this wrong. I don't wanna say this wrong. Yeah. Tell me, would you wait for me? Baby, I'm a rolling stone. I got a lot of right in me, but I don't wanna say this wrong. Say this tell me, wrong. Would you stay with me? Maybe we can make this.
Hugo Da Custodia.
Les championnats nationaux de basket sont terminés depuis plusieurs semaines. Les Lions Genevois, les filles de Nyon ont remporté les titres en détrônant au passage les équipes masculines et féminines de Fribourg, Olympique et Elphique. Et même si les compétitions majeures sur le plan national sont terminées, le basket suisse fourmille de partout avec deux très gros événements en ligne de mire. L'Euro féminin qui démarre mercredi pour la Suisse et la Coupe du Monde des moins de 19 ans qui s'installe à Lausanne pour une grosse semaine dès le 28 juin. Pour évoquer ces tournois, entre autres, nous sommes en ligne avec Eric Lehmann, secrétaire général de Swiss Basket. Bonsoir.
Bonsoir.
Eric Lehmann, je l'ai dit en introduction, on parle de basket en juin, en juillet, avec des gros tournois, des participations et des implications de la Suisse à plusieurs degrés. Ça doit vous changer de certains étés plus calmes pour le basket helvétique.
Oui, oui, c'est sûr, on est super content, on est sous le feu de la rampe, bon, on l'a dit, avec cet Euro féminin, avec le championnat du monde des moins de 19 ans, mais aussi avec la draft, puisqu'on a un joueur qui très probablement va être drafté assez haut, en tout cas on espère encore en fin de premier tour ou assez haut dans le deuxième tour. On a les garçons cet été qui vont être engagés dans les qualifications à la World Cup, avec deux matchs très importants contre la Slovaquie et l'Ukraine. Donc c'est vrai, été très chargé, été très studieux, mais c'est pas fait pour nous déplaire.
Ah oui, on imagine que c'est positif pour le basket suisse. On va parler de l'Euro féminin dans quelques minutes, mais un mot d'abord sur la Coupe du Monde U19, un sacré chantier pour Swiss Basket, sacré honneur aussi, on l'imagine, de recevoir et donc de pouvoir participer à cette compétition.
Bah, je crois que cet ensemble de choses montre le crédit qu'on donne aujourd'hui au basket en Suisse, et ça c'est très nouveau. Je crois qu'on a franchi un palier, on est respecté sur le plan européen, et le fait que la FIBA nous ait confié l'organisation du plus gros événement de basket sur la planète FIBA cette année, hein, pas de championnat du monde senior, pas de Jeux Olympiques. Donc le centre mondial névralgique du basket sera à Lausanne du 28 juin au 6 juillet, et ça on est fiers et on attend des matchs de niveau incroyable, parce que ça a beau être des moins de 19 ans, ce sont des joueurs qui sont tous ou déjà en contrat avec la NBA ou très proches d'y arriver.
Justement, les stars de demain.
Oui, les stars de demain, même les stars d'aujourd'hui. En tout cas, c'est un niveau auquel on n'a pas du tout l'habitude d'être confronté ici en Suisse. Les spectateurs vont se régaler. On va avoir des joueurs de gabarit incroyable, de niveau athlétique incroyable. On est d'ailleurs déjà très content parce qu'on a plusieurs journées où on a déjà vendu plus de 5000 billets. Donc, on sait que ça va être un succès populaire incroyable. Et puis, il y a plein d'autres choses autour. On en parlera peut-être un peu après, mais on est tellement, tellement content d'organiser cette compétition et de voir que ça va être un magnifique succès populaire.
Et l'équipe de Suisse, alors, à cet âge-là, elle vaut quoi et elle peut espérer quoi de ce rendez-vous et en termes de relais?
Alors, c'est compliqué parce que, par exemple, dans une Coupe du Monde comme ça, on n'a que les 5 meilleures équipes européennes. Donc, il y en a beaucoup. L'Espagne n'est pas là, l'Italie n'est pas là, la Croatie n'est pas là. Donc, c'est compliqué. Et nous, on est là en tant qu'organisateur. On a quelques ambitions avec cette équipe parce que, d'abord, on a des joueurs qui sont issus de notre centre national. Donc, on commence à produire des joueurs intéressants. Puis, on a quelques joueurs qui jouent à l'étranger, qui sont déjà dans les universités américaines. Dayan Nessa qui est passé par le FC Barcelone. Donc, on a quand même quelques arguments à faire valoir, même si on sait que ça sera extrêmement compliqué face aux États-Unis, Canada, Australie, Chine, j'en pense c'est des meilleurs. Non, c'est le top niveau mondial, c'est encore autre chose que le niveau européen. Et quand on connaît comment le basket est développé sur l'ensemble de la planète, on sait que ça va pas être simple.
En tout cas, après la fête de gym, il faudra rester à Lausanne. Et avant ce mondial U19, il y aura donc l'Euro féminin. La Suisse attendait d'y participer depuis près de 70 ans. Elle a aussi, Eric Liman, une belle vitrine, beaucoup de fierté, on l'imagine.
Ouais, c'est vraiment génial ce qui nous arrive. Pour une fois, les planètes se sont alignées. Souvent, on est victime de paniers à verrage de dernier moment, de résultats qui n'étaient pas prévus et on se fait éliminer toujours dans la dernière ligne droite. Là, ça s'est bien aligné en février après un début de campagne de qualification très compliqué où on a commencé par deux défaites. Ben, on a réussi à accrocher, c'est finalement la dernière place qualificative de cet Euro. Et là aussi, être parmi les 16 meilleures équipes européennes quand on connaît le développement du basket féminin sur le territoire européen, c'est vraiment génial. C'est compliqué parce qu'on l'a vu dans la préparation, on affronte des équipes, on a joué deux fois la Serbie, on a joué l'Espagne, c'est pas simple, mais on a de l'ambition parce qu'on va en Grèce dans un groupe de quatre où il faudrait être dans les deux premiers pour participer au quart de finale. On va affronter la Grèce, la Turquie et la France. Bon, la France c'est évidemment injouable probablement pour personne, mais on a quelques petits espoirs face à la Grèce et la Turquie. Je crois qu'on devrait être capable de matcher face à ces équipes.
Ben on va vous retrouver dans 5 minutes, Eric Liman, parce que vous venez d'en parler et on en a aussi évoqué ce tirage au sort, entre autres avec un certain Romain Gaspeau, le Valaisan, l'un des Valaisans embarqués dans cette aventure à l'Euro féminin, le coach delphique et l'un des assistants du sélectionneur François Gomez au sein de l'équipe de Suisse féminine. Nous avons pu joindre Romain Gaspeau il y a quelques jours pour évoquer ce tournoi. Première question, comment se répartissent les rôles dans le staff technique de cette équipe nationale féminine?
Naturellement, l'entraîneur en chef qui est en charge des temps de jeu, du management général de l'équipe, forcément de l'idée globale, c'est quand même lui qui l'a imposé entre guillemets à l'équipe. On a beaucoup échangé sur quel genre de défense on voulait avoir, quel genre d'attaque aussi, mais après voilà, ça c'est sa responsabilité. Après, la responsabilité plus précise pour ma part, c'est l'axe défensif, travailler sur la défense de l'équipe. Émilie est plutôt en charge de l'aspect offensif. Et puis, il ne faut pas oublier Besrat Temelso, ancien assistant à Montet, qui est en charge de la vidéo, qui fait beaucoup de boulot, un boulot assez ingrat, un peu invisible, mais beaucoup de travail pour préparer les matchs à la vidéo, pour qu'on soit le plus près possible. Donc ça, c'est un petit peu la répartition des tâches pour essayer, comme je l'ai dit avant, de bien accompagner l'équipe, qu'elle sache aussi vers qui se retourner en fonction des besoins, des attentes, pour être le plus professionnel possible.
Un staff au fort avec son valaisan et chablaisien par ailleurs. Romain Gaspeau, quelle est l'identité de cette équipe de Suisse? Et une question dans le prolongement, à quoi vous voulez qu'elle ressemble, cette équipe de Suisse, en termes de jeu, en termes de valeur?
Bon, je pense qu'il faut rester sur ce qui a fait notre succès dans les fenêtres qu'on vient de passer. Je l'ai dit, novembre, février, c'était une équipe qui n'avait pas peur, qui osait se confronter à, il faut déjà le dire, des grosses nations de basket. On a battu le Monténégro, donc on est rentré dans ces matchs avec, je l'ai dit souvent, mais de l'ambition. Et surtout beaucoup de courage, d'intensité. Le visage de l'équipe, c'est naturellement, on n'a pas une équipe hyper volumineuse physiquement, si on se compare aux meilleures nations d'Europe, mais on essaie de compenser ça par beaucoup d'intensité. C'est ce qu'on essaie de produire en défense, une défense agressive, intense, avec beaucoup de rotation, beaucoup de combats. On doit compenser un petit peu ce manque de taille, ce manque de volume physique. Offensivement, c'est dans le partage du ballon que ça se passe. On n'a pas une joueuse sur laquelle on peut s'appuyer pour mettre 20 ou 30 points. Donc on essaie de bien se partager le ballon, sachant qu'on a quand même aujourd'hui en Suisse, dans le basket féminin, des filles qui sont bien exportées. Je ne vais pas oublier des noms, mais on peut parler de Nancy Fora qui joue en Ligue féminine en France, ou d'Evita Hermajar qui joue une très très belle saison en Slovaquie. Donc on a des internationales suisses qui réussissent à l'étranger, donc on s'appuie aussi naturellement sur elles. Mais je pense que ça se passe d'abord dans le collectif, l'envie de se partager le ballon, l'envie d'être solidaire en défense. Et puis dans la mentalité, c'est de ne pas avoir peur, d'être dans le combat, l'intensité, pour essayer de compenser forcément des lacunes par rapport aux très grosses nations européennes.
Les grosses nations, il y en aura dans votre groupe, Romain Gaspon. On en avait parlé un petit peu avec Nadia Constantin. Tirage au sort à la fois difficile et rêvé, parce que la Grèce qui accueille ce championnat d'Europe, la Turquie qui est un pays de basket, et surtout la France finaliste des derniers JO, ce sont des gros morceaux.
Ah oui, je pense qu'il y a naturellement à l'Euro pas de petites équipes. La Grèce, c'est quand même une grosse nation de basket qui va jouer à la maison, donc on aura la chance de jouer dans le stade Olympiakos, qui a priori sera bien plein pour ce match d'ouverture, parce qu'on a la chance ou la malchance d'être le match d'ouverture. Ça va être, je pense, un grand moment pour tout le monde de pouvoir jouer dans un stade d'Euroleague qui sera plein et face à une équipe de Grèce qui a du talent, des joueuses d'Euroleague à nouveau. La Turquie, c'est une grosse nation de basket, vous l'avez dit. Dans le basket féminin, c'est Fenerbahçe, multiple champion d'Europe. Donc, une équipe difficile à manier, qui, je pense, a vraiment l'objectif de sortir de cette poule. Donc, il sera naturellement prête pour ça. Et bon, la France, si ce n'est pas ce qui se fait de mieux sur la planète, c'est en tout cas pas loin, parce que ça s'est vu lors des JO qu'ils étaient tout près des États-Unis. Donc, c'est certainement une des meilleures nations du monde. Donc, tout ça, mis bout à bout, c'est un gros challenge devant nous. Et je pense beaucoup de belles expériences. Mais encore une fois, on va aborder ces matchs avec beaucoup d'ambition. On joue la Grèce en premier, donc je pense que c'est là qu'il faudra déjà servir à des talons un peu ce match, parce qu'il faudra être très très bon dans ce match-là. S'il y a un match à prendre, c'est peut-être celui-là. Ça semble, sur le groupe qu'on a, peut-être l'adversaire le plus prenable, même si ce n'est pas un adversaire facile. Peut-être que sur le papier, c'est peut-être le plus prenable, mais bon, c'est à la maison. Mais je pense que c'est vraiment le match qui peut nous servir de référence pour peut-être la suite. Si on est capable de prendre la Grèce, peut-être qu'on arrivera contre la Turquie avec de la confiance. Et pourquoi pas jouer un quart.
Gaspard, une dernière question sur le plan personnel. Vous avez déjà remporté de nombreux titres, vécu de nombreuses aventures sur le plan suisse, sur le plan international, notamment avec Elfic. Où est-ce que vous placez cette participation à l'Euro en termes de fierté, en termes de sensations fortes?
C'était quand même une journée particulière, parce que quand on a fini notre match contre la Bosnie, on savait qu'on avait fait une magnifique performance, mais on ne savait pas forcément qu'on était qualifié. Il y a eu un peu des hauts et des bas au fur et à mesure de la soirée avant de savoir qu'on était qualifié. Donc c'est vrai que c'était un petit peu particulier, parce qu'on n'a pas vécu cette qualif en direct avec l'équipe. Mais c'est forcément quelque chose qui est, je pense, historique. Donc naturellement, très haut placé pour moi. Réussir à jouer à un événement comme celui-là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je pense que plus on va s'approcher de la compétition, quand on va voyager vers Athènes, je pense qu'on va se rendre compte du magnifique parcours qu'on a fait, parce qu'on va jouer, on va se rendre compte de la réalité de l'endroit où on est, de l'opposition, de l'ambiance. Donc ça va être quelque chose de très particulier. C'est certainement tout en haut de ma carrière d'entraîneur. Donc très très heureux de participer à cette aventure avec un super groupe de joueuses. Donc pour l'instant, c'est que du bonheur.
Du bonheur pour Romain Gaspon, Eric Lehmann. On vous retrouve après cet entretien. Départ imminent là pour la Grèce et pour un nouveau monde pour cette équipe de Suisse féminine.
Oui, c'est demain matin. Donc l'équipe le 12, l'équipe qui va participer à l'Euro a été communiquée. Une cérémonie un peu officielle, formelle de remise des maillots, et voilà, l'équipe s'envole demain matin. Comme le disait l'assistant, comme disait Romain, ils vont plonger vraiment dans la compétition, puisque les technical meetings, enfin toute l'organisation d'un championnat d'Europe va leur tomber dessus dès demain. Dès qu'elles vont descendre de l'avion, elles vont être rencontrer leurs adversaires, rencontrer les gens de la fédération internationale, enfin voilà, plonger dans l'événement. Et c'est vrai que pour la plupart de nos joueurs, ça sera quelque chose de complètement nouveau.
Et on se réjouit de suivre tout ça. Eric Lehmann, il nous reste 2 minutes. Vous allez bientôt quitter la scène du basket helvétique. Du moins, vous allez boucler votre mission de secrétaire général de la fédération à la fin de l'été. Vous aurez l'impression à la fin de l'été d'avoir bouclé la boucle?
J'ai l'habitude de dire que l'espérance de vie des responsables de fédération comme ça, c'est 4 ans. C'est ce que nous dit Suisse Olympique. J'aurais fait 7. Je crois que c'est déjà pas mal. Non, je suis très content du parcours. C'est compliqué, hein, parce que le basket en Suisse, c'est pas à la place où il devrait être, parce que c'est vraiment discipline qui se développe sur la planète entière, dans tous les pays, et qui va de toute façon se développer en Suisse. Il y a beaucoup de signaux qui sont aujourd'hui au vert. On est beaucoup plus reconnus. On a parlé du championnat du monde, on a parlé du championnat d'Europe, on a parlé du centre national qu'on a ouvert il y a 4 ans. Donc on a beaucoup de crédibilité, même internationale aujourd'hui. Malheureusement, on a quelques petits points noirs. On a effectivement le problème économique qui est l'économie de nos clubs et de nos clubs masculins de haut niveau. Ça, c'est un vrai souci. On doit construire des infrastructures pour leur permettre de développer une économie qui le mérite et qui puisse leur permettre d'être compétitifs sur au niveau international. Ils le méritent et on a des joueurs suisses qui méritent aussi d'avoir des clubs de haut niveau.
Une fédération parfois chahutée, hein, et Eric Lehmann notamment avec ces problèmes parfois administratifs, des problèmes de club aussi qui peinent à trouver de l'argent et qui trouvent en la fédération parfois un coupable idéal.
Oui, c'est de toute façon pas en déshabillant l'un qu'on rhabille l'autre. C'est clair qu'aujourd'hui, la fédération se porte plutôt bien, on l'a dit, il y a des succès, il y a de la crédibilité, etc. Et puis, le basket de club, et le basket de club masculin surtout de haut niveau, se développe pas à la même vitesse. Et c'est justement aujourd'hui la mission de la fédération, de mettre en place des conditions, cadres, pour permettre à ces clubs de se développer. C'est ça notre mission, c'est pas de prendre 3 francs dans un pot pour le redistribuer de l'autre. Ça, je pense, c'est pas la mission d'une fédération, mais nous, on doit mettre tout le monde sous le même toit et favoriser le développement de tous et de manière harmonieuse.
En tout cas, on aura parlé du basket qui va moins bien sur cette dernière question, mais surtout du basket suisse qui va bien avec donc cette participation au championnat d'Europe pour l'équipe de Suisse féminine et la Coupe du Monde. Merci infiniment, Eric Lehmann. On peut aussi dire que la recherche de votre successeur bat son plein et que peut-être qu'on aura l'occasion de vous recroiser en Valais prochainement. Bonne soirée.
Oui. Bonne soirée, merci pour l'invitation.
Merci encore. Et c'est ainsi que s'achève l'émission du jour, l'avant-dernière de la saison. Zone Mixte sera de retour la semaine prochaine avant la pause estivale. Merci à Simon pour sa présence en studio à nos côtés pour les aspects techniques. Et surtout, belle fin de dimanche à toutes et à tous à l'écoute de Rhône FM.
18h15, 19h, le dimanche, l'essentiel du sport. C'est Zone Mixte sur Rhône FM.